Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'il y a des volcanismes à Crozet ?
Alors, toutes les îles dont j'ai parlé, donc Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, sont des volcans en fait. Certains, c'est des vieux volcans, et il y a certains qui sont extrêmement récents. Et moi, j'ai à montrer, vous pourrez toucher si vous voulez plus tard. J'ai envoyé un morceau de ce volcan, ça c'est un éjecta, c'est un morceau de lave qui a été expulsé par un volcan et qui est retombé et qui a refroidi et durci. Mais ça, c'était de la lave. C'était à plus de 1200 degrés au départ. Et puis, autre type de lave.
Voilà. C'est quoi ?
Ça, c'est une roche. Voilà, vous allez voir, vous allez trouver son nom. Mais c'est une roche qu'on appelle une phonolite. Phono, c'est-à-dire le son. Donc, c'est une roche qui produit du son. Voilà. Donc, ça, c'est une roche aussi volcanique. Donc, pour répondre à ta question, tout est volcan. Il n'y a que des roches volcaniques. Quasiment que des roches volcaniques. Il y a des petites exceptions, mais je passe.
D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la source d'énergie pour l'électricité ?
Alors là-bas, il y a beaucoup de vent. Et moi, je pensais, il y a des éoliennes. Comme ici, par exemple, sur le haut, à Castres. Mais non. Il n'y a pas d'énergie renouvelable, ou très peu. Il y a quelques panneaux solaires sur les petites cabanes que tu as vues tout à l'heure. Mais sinon, la source d'énergie, c'est du fuel, c'est du pétrole, donc qui arrive par bateau. Ça, c'est la base, Alfred Fort, où vivent les 27 personnes. Et ça, c'est le bateau qui s'appelle le Marion Dufresne. Et c'est le Marion Dufresne qui ramène le fuel, et le fuel qui arrive en bas, au niveau de la plage. Et ensuite, hop, où sont les bonbonnes ? Elles sont en bas. Et ici, vous avez la salle des machines. Et là, il y a trois groupes électrogènes qui tournent sans arrêt, à tour de rôle, et qui produisent l'électricité pour uniquement la base.
Est-ce qu'il y a Internet à Crozet ?
Alors, quand moi j'y étais, il n'y avait pas de pigeons voyageurs, mais pas loin. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de pigeons, sauf les Kionis. Mais à l'époque où j'étais, donc je réponds d'abord ça, hein, parce que voilà, je pourrais vous dire aujourd'hui. À l'époque, et avant moi, tout fonctionnait par courrier écrit. Et comme les bateaux passent tous les 4 mois, vous receviez des nouvelles tous les 4 mois. Et vous pouviez envoyer des nouvelles tous les 4 mois. Donc d'un coup, vous vous trouviez avec 20, 30, 40, centaines de lettres à lire. Ça, c'était avant, longtemps avant. Après, il y a eu le Telex et le courrier. Le courrier, il existe toujours et à mon avis, il est toujours utilisé. Le Telex, c'est avant le mail, mais ça passe... c'est comme la radio, en fait. On reçoit la radio, on envoie des Telex. Le problème, c'est qu'il y avait des lettres qui se perdaient dans les Telex. Et quand on lisait ces messages, de temps en temps, il y avait des mots qui disparaissaient. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je ne sais pas. Bref, donc c'était assez rigolo. Et aujourd'hui, oui, il y a Internet. Grâce au satellite, il y a une antenne qui regarde un satellite en perpétuel et du coup, il peut y avoir des échanges de mails. Donc là, si on voulait, on pourrait écrire à des hivernants qui sont là-bas. Il n'y a que 3 heures de décalage, mais on peut très bien, ils sont complètement reliés au reste du monde.
Est-ce que le voyage à Crozet vous a stressé ?
Alors, le voyage à Crozet se fait avec le bateau qu'on voit, là, donc le Marion Dufresne, et il part de l'île de La Réunion. Le voyage, il dure 6-7 jours, quand tout va bien. on est quand même à des latitudes assez extrêmes, et l'océan, là-bas, il peut être archi-démonté comme ici l'hiver. Donc... Le Marion Dufresne, parfois, quand il y a des vents à 140, 160 km/h, il arrête d'avancer. Et il se met face au vent et puis il attend. Donc nous, on n'a pas eu ça. Mais je dois avouer que cette situation-là est un peu stressante. De voir le bateau plein à craquer avec du fuel à ras-bord dans les cales, avec plein de matériel dans les caisses, et de savoir que on fait le bouchon dans un océan et il n'y a rien autour. Bon, il y a un petit côté stressant. Mais sinon, c'est quand même un voyage, donc on le fait avec beaucoup de joie, forcément.
Comment ça se passe si on a un problème de santé ?
La petite boîte bleue, là, c'est ce qu'on appelle l'hôpital. Et il y a un médecin. Il y a un médecin qui est recruté chaque année. Et ce médecin, il doit savoir tout faire. C'est-à-dire que si vous avez une crise, j'ai vu dans les questions de dents de sagesse, il va devoir, même s'il n'est pas dentiste, réussir l'opération. Voilà. S'il y a une appendicite, il va devoir peut-être faire sa première opération d'appendicite. Voilà. Mais il est médecin quand même, donc il est formé. Pendant plus de 6 mois, il est formé pour faire ça. Et je vous rassure, grâce à Internet aujourd'hui, il y a une liaison qui se fait automatiquement avec des grands hôpitaux de Paris. Donc il y a des chirurgiens à Paris qui expliquent aux médecins comment il faut ouvrir le... C'est jamais arrivé. C'est très très rare. Mais ça peut arriver. Ouais.
Est-ce qu'on passe des tests physiques ou psychologiques avant la mission ?
On passe une batterie de tests incroyables. Donc on passe d'abord des tests sur nos compétences. Donc ça c'est le premier test. Et ensuite, pour répondre plus précisément à vos questions, il y a des tests d'abord médicaux. Donc on passe devant 1000 médecins pour faire un grand check de l'état de santé. Et puis, on a aussi des tests psychologiques. Là, pareil, on passe une journée à Paris, parce que tout se fait à Paris généralement. Donc on part tous de là où on habite pour aller à Paris. On passe la journée là-bas et on fait plein de tests psycho, etc. Je suis assez dubitatif sur ces tests, mais on en fait en tout cas. Et il faut savoir, en fait, tout ça, ça peut servir aussi pour aller habiter demain sur Mars ou sur une station spatiale. C'est comment un petit groupe peut fonctionner. Voilà. Donc c'est très important de faire ces tests en amont.
Où est-ce qu'on dort ?
Concernant les petits refuges que vous avez vus en bois, il y en a plusieurs sur l'île, donc pour faire dodo lorsqu'on fait des missions. Sinon, c'est sur la base. Je peux vous montrer... donc ça, c'est ce qu'on appelle le L1, c'est un bâtiment logement. Ça, c'est le 8 chambres, bâtiment logement. Là, il y a le bâtiment dans lequel moi je faisais dodo, mais qui a disparu depuis. Et ça aussi, c'est un... Bref, mais c'est des chambres comme la vôtre, hein. Ça change rien, c'est des chambres individuelles, hein. On n'est pas 4 par chambre, ça, il faut oublier. Chacun a sa chambre. Très important.
Qu'est-ce que vous avez fait comme type de recherche ?
Alors, moi, personnellement, donc j'ai parlé des autres tout à l'heure. Moi, j'ai une formation en géologie, donc l'étude de la Terre. Et sur la base, ici... Je vais vous montrer cette petite cabane blanche dans laquelle j'ai passé des heures et des heures. On enregistre les tremblements de terre qui ont lieu un peu partout dans le monde. Et on enregistre également les variations du champ magnétique terrestre. Donc il y a deux types d'appareils. Et moi, mon rôle, c'était de m'assurer que ces appareils fonctionnent bien et mesurent bien. Voilà. Et j'étais au courant avant vous quand il y avait un tremblement de terre en Chine. Voilà.
Y a-t-il des espèces en voie de disparition sur l'île ?
Très bonne question. Les manchots royaux que vous avez vus tout à l'heure, ils ne sont pas en voie d'extinction. Mais par contre, ils subissent de plein fouet le réchauffement climatique. Voilà. Les zones où ils vont s'alimenter varient énormément. Donc voilà. Mais précisément, en voie d'extinction, non. Par contre, je profite de ta question pour dire qu'on essaye d'en éradiquer certains. C'est-à-dire, mais c'est pas gentil ça d'éradiquer des espèces. Éradiquer, ça veut dire tuer des espèces. Avant que l'être humain arrive sur cette île, il y avait des animaux sauvages. Dès que l'homme a mis le pied dessus, il est arrivé avec des aliments, il est arrivé avec des grains, il est arrivé avec des poules. Quel genre d'animaux pouvaient se cacher dans le grain ? Des rats. Voilà. Et à Kerguelen, il y a aussi, parce qu'ils se sont dit, mince, il y a trop de rats. Quel animal peut-on amener sur l'île pour tuer les rats ? Vous feriez quoi, vous ? Des chats. Eh ben, ils ont pris des chats. Mais les chats, ils n'ont pas mangé les rats. Ils ont été manger les oiseaux. D'à côté, oh là, mince, on s'est trompé de stratégie. Donc il y a une lutte comme ça, et tout à l'heure j'ai montré le petit volcan de Saint-Paul et Amsterdam, il y a eu des éradications totales de ces espèces introduites. Voilà.
Est-ce que le climat est difficile à vivre ?
Alors ici, sur la base Alfred Fort, on est à peu près à la même latitude que nous, ici, mais complètement dans l'océan. Donc c'est un peu l'hiver tout le temps, faut avouer. Et dans la même journée, et je vais parler d'une anecdote, le jour où je suis arrivé, quand on a sauté en hélicoptère du Marion Dufresne sur la base, c'était tempête de neige. On voyait quasiment pas l'île, on s'est dit waouh, sur quoi je vais atterrir. Bref, l'hélicoptère arrive à s'envoler du pont du bateau et c'était tempête de neige. D'accord ? Donc ça, c'est le matin. À 14h, j'étais en t-shirt dans la Mangetière, tout en bas. Et je découvrais les manchots en pleurant parce que c'était tellement beau, que, tellement extraordinaire d'être là. Donc des fois, il y a deux saisons en fait, dans la même journée. Mais moi, j'ai vu ça de neige à peine. Hein. Il y a 20 ans, enfin même 40 ans du coup, certains hivernants avaient un mètre de neige. Bref, c'est pas si dur que ça, c'est pas l'Antarctique non plus. Hein. Mais c'est rigoureux, quoi. C'est comme ici l'hiver, quoi. Un peu plus intense, quoi.
Quel type de roche avez-vous étudié ?
Alors, là-bas, moi, j'ai pas vraiment étudié de roche, parce que j'ai été pour faire d'autres mesures. Mais voilà, ma passion en géologie, ma passion des roches m'a amené à découvrir aussi les roches qu'il y avait sur l'île, voilà. Et je vous montre quelques échantillons, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle des basaltes, par exemple, ou des trachytes, des phonolites, etc. Quoi.
Est-ce que tu as compté des animaux pour des recherches ?
Alors, est-ce que j'ai compté des animaux pour mes recherches ? Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai parlé de Céline tout à l'heure, qui faisait des comptages. Elle faisait des comptages journaliers. Et elle s'est amusée à un moment donné de savoir, parce que j'imagine que c'est peut-être le cas, vous, dans la cour. Il y a des jours où vous faites beaucoup de bruit, il y a des jours où vous faites moins de bruit. Dans la Manchotière, il y a des jours où ça fait extrêmement beaucoup de bruit, il y a des jours pas beaucoup de bruit. Et les jours où ils font beaucoup de bruit, ben ils se donnent vachement de coups de bec, en fait. Ils sont vraiment énervés, quoi. Et du coup, elle s'est même amusée à compter parfois le nombre de coups de bec que donnaient les voisins manchots au manchot et combien le manchot, lui, donnait de coups de bec sur son voisin. Donc, voilà. Mais on compte pour comprendre certaines choses, parce qu'on ne connaît pas grand-chose, en fait.
Est-ce qu'on peut aller à la rencontre des animaux et les caresser ?
Alors, ça dépend des animaux. L'orque, moi, je n'ai pas caressé. Mais les éléphants de mer, j'ai fait des siestes à côté d'eux. Pareil dans la Manchotière, quand il y a plein de petits poussins, vous allongez sur le sable entre du caca d'oiseau, quoi. Mais bon, ça c'est peu importe. Et vous allongez, puis vous retrouvez à un moment donné avec 5-6 poussins sur le ventre ou sur le dos en fonction d'eux, et ils font dodo sur vous. Et là, vous dites c'est génial. Il y a vraiment eu un rapprochement fort. Les oiseaux sont quand même assez farouches, quoi. Hein, généralement, mais un peu moins farouches qu'ici. Donc, certains on peut s'approcher, d'autres pas. Voilà, ça dépend des espèces.
Est-ce qu'il y a des marées et des risques naturels sur l'île ?
Alors, des marées, il y en a un tout petit peu. Dans cette crique du navire, il y a un appareil qu'on appelle un marégraphe, qui est installé par un organisme qui est à Brest, qui s'appelle le CHOM, et qui mesure la variation des marées. Donc oui, il y a des marées, mais ce n'est pas les marées d'ici. Hein. Quand ça baisse, ça baisse 60 cm à peine. Mais il y a des marées. Alors les risques. Dans cette configuration, bon, c'est passé un an. Peut-être le problème éventuel que je vois. Enfin, risque naturel, on va parler peut-être. Hein, risque naturel. Donc j'occulte cette partie-là. Risque naturel, le volcanisme... il n'est pas complètement éteint, les derniers volcans ont 2000 ans, donc peut-être que pourrait y avoir une éruption. L'échantillon que j'ai ici, je l'ai récupéré à quelques kilomètres au sud, à l'ouest de la base. Donc si le volcan se réveille à nouveau, effectivement, ça peut poser un problème pour la base. Mais bon, on saura s'il se réveille ou pas. Mais le risque, j'ai parlé tout à l'heure du vent, par exemple. C'est un risque naturel. Le vent est très très fort et sans blague, et c'est là que j'ai commencé à avoir peur du vent, parce qu'au début je trouvais ça rigolo, j'ai vu des cailloux de cette taille voler, donc c'est un risque quand même.